Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 13 décembre 2020, troisième jour de Hanouka, et je voudrais approfondir quelque peu un thème qui me paraît essentiel. C'est celui de Joseph, Yosef en hébreu. Qui est Yosef? Qui est ce personnage, en fait, fondamental? C'est un des fondements même de la Torah d'Israël en tant que personnage biblique. Que son père Yaakov aimait beaucoup. Dès que Yosef est né de sa femme chérie Rachel, il a quitté Lavan et, envers et contre tout, il a voulu rentrer en terre de Canaan. Yosef, qui dit Onkelos, un des plus grands commentateurs de la Torah, avait reçu de son père l'ensemble des enseignements que son père avait reçus des tantes de Éver et de Shem. Il avait une neshama extrêmement profonde et les frères, bien entendu tous extrêmement saints, évidemment, fils de Yaakov, le jalousait. Alors, cette jalousie menant à cette haine fraternelle qui vient en fait de la haine qu'avait Caïn pour Hevel, les deux enfants de Adam Harishon, eh bien cette haine, elle est en fait dominée par une incompréhension. Deux mondes qui s'entrechoquent. Il faut comprendre pour cela les rapports secrets qu'avait Yosef avec son père Yaakov. Yosef rentrait dans le Pardès avec son père. Il avait, on vient de le dire, reçu les enseignements de Shem et de Éver. C'est-à-dire qu'il avait atteint la surnature. Il avait intégré toute la Torah, mais il était surtout relié directement par, dans ses fondements, dans son Yitzhod, au maître Dieu de l'histoire, au Dieu maître de l'histoire, qui allait diriger ses pas, diriger ses actes dans l'adversité, envers et contre tout, vers la messianisation du peuple hébreu vers le Mashiach ben Yosef, condition essentielle au Mashiach ben David. Alors pourquoi les frères jalousaient? Qu'est-ce qui se passe? Alors au niveau du Pshat, évidemment, ils ne supportaient pas le fait que Yosef rapportait des choses mauvaises à son père concernant l'attitude de ses frères. Mais en fait, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit que ce sentiment de haine n'était en fait pas vraiment fondé. Parce que Yosef avait un rapport avec son père que les frères ne comprenaient pas. Les frères, tout saints soient-ils, ne rentraient pas dans le Pardès, comme rentrait Yaakov et son fils préféré, Yosef. Et qu'est-ce que ça veut dire, rentrer dans le Pardès? Ça veut dire décoder les moindres réalisations de ce monde. Par exemple, quand Yosef voyait que son frère Binyamin ou son frère Yehuda avait un pull rouge, eh bien, il courait voir son père en disant, regarde papa, Yehuda a un pull rouge, par exemple. Et c'est ce qui correspond au rouge dont on avait parlé hier, dans les secrets de la Torah. Et que ce rouge-là signifie telle ou telle chose. Les frères ne rentrant pas dans le Pardès, le comprenaient, si vous voulez, à leur niveau, mal. Et donc pour eux, c'était un phénomène mauvais, un phénomène déstructurant. Pourquoi ? Parce que les frères portaient en eux un monde qui correspondait absolument au monde d'Abraham et d'Isaac. Yosef, lui, correspondait véritablement à l'universel révélé à la fin des temps. C'est-à-dire que les deux mondes des frères et de Yosef se complétaient. C'est-à-dire que pour, par exemple, Yosef, il fallait passer de l'intériorité, disent les maîtres du sort, les maîtres des secrets, vers l'extériorité. Yosef va être vice-roi d'Égypte, il va rentrer à la cour de Pharaon, il va être encensé par les Égyptiens. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça va être le moteur de la dynamique économique de l'histoire. Yosef va porter en lui le progrès économique et social, les solutions à la crise. Chaque fois qu'il y a une crise dans le monde, quel que soit le pays, quelle que soit la civilisation, et que cette crise va être résolue sous une forme de progrès, sous une forme de croissance économique et sociale, eh bien ce sont les forces de Yosef qui s'active dans le monde. Yosef étant véritablement cette source fondamentale qui pousse l'humanité vers la rédemption finale. Et les frères n'avaient pas accès à ce monde-là. Les frères qui étaient encore une fois extrêmement saints, mais dans une forme de sainteté qui était intériorisée. Et eux, ils passaient, si vous voulez, de cette extériorisation vers l'intériorisation. Par exemple, Yehuda, qui était évidemment porté par la royauté, on sait bien que le Mashiach ben David descend de Yehuda, Yehuda étant le lion de l'histoire, si vous voulez, le lion de Yehuda, mais tandis que Yosef était le chor, le taureau. Et vous savez que chaque animal a des forces, il y a au niveau symbolique, et dans la Torah, véritablement, Yosef était considéré comme un taureau, c'était le fondement même de la création. Yosef était véritablement lié directement à son père, Yaakov, qui était Tiferet, et dans l'arbre séphirotique, on sait bien que le Yesod descend de Tiferet, et du Yesod sort la Malchut. Et de quelle malchoute on parle ? On parle évidemment de la malchoute du Mashiach ben David. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver au Mashiach ben David, il faut incontestablement intégrer les forces de Yosef. Yosef étant le fondement même du Mashiach ben David. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre parenthèses, Yosef qui est dans un trou. Ce sont tous, si vous voulez, si je parle d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu, ce sont tous ces juifs dits sionistes religieux, n'est-ce pas, qui sont reliés directement à la terre d'Israël, qui essaient de faire le lien entre le Kodesh et le Chol, qui essaient de donner un sens à la vie, au vécu matériel, matérialiste de l'histoire, et qui vont essayer d'être porteur d'une parole qui va être la condition même du Mashiach ben David. Eh bien, ces sionistes religieux aujourd'hui, ces Yosef, n'est-ce pas, vont souffrir et vont être délaissés par leurs frères. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le sionisme religieux est secondarisé que ce soit par les laïcs ou que ce soit même par les dits charedim, c'est-à-dire les religieux ultra-orthodoxes, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que, en fin de compte, les territoires de Yosef, qui sont directement liés à la ville de Shrem, d'ailleurs, Naplouse en français, eh bien, représentent la matérialité. Donc les deux mondes des frères, les frères et le monde des frères et le monde de Joseph s'entrechoquaient. Le monde de Joseph était un monde fondé directement sur l'universalisme, mais à partir de la connaissance de Dieu, maître de l'histoire, et Joseph était le fidèle parmi les fidèles de la présence de Dieu. Joseph ne faisait pas un pas sans Dieu. Joseph ne faisait pas un pas dans ce monde-ci extrêmement matériel sans la volonté suprême. Joseph était un économiste, n'est-ce pas, qui avait réussi à sauver l'Égypte. Et regardez comme c'est intéressant. À chaque fois que les Égyptiens venaient demander à Joseph de la nourriture, Joseph les obligeait à faire la Brit Mila. Et Paro était en fait indirectement tout à fait d'accord. Mais pourquoi ? Parce que Yosef avait compris que sa mission était d'emmener l'universel à partir de la Torah, à partir d'Israël, à partir d'Abraham, d'Isaac et Jacob, vers sa propre messianisation, vers sa libération des forces du mal, vers le monde sur nature, vers le 8, vers la Brit Mila, vers l'alliance éternelle entre l'humanité et son Dieu. Mais les frères, eux, qui, encore une fois, ne rentraient pas totalement dans le Pardès, dans le Pshat, Remez, Drash et Sod, les frères, eux, étaient, si vous voulez, introvertis, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement reliés directement à la Torah de leur père, et ils avaient raison de l'être, Ils avaient très peur que Yosef descende en fin de compte d'Esav, parce que Esav est un échec. Esav, c'est la tombée dans les tourments de la vie, dans l'obscurité opaque de notre monde. Et Yosef, lui, ils avaient, entre parenthèses, pas totalement tort. Yosef était un homme qui, tout simplement, vivait ses propres rêves et voulait les accomplir dans ce monde. Mais le problème, c'est que le rêve de Yosef s'accomplit, mais se développe dans un univers tellement obscur, tellement déstructuré et déstructurant, que, en fin de compte, l'expérience de Yosef, sans la terre d'Israël, mène à la catastrophe. Yosef, si vous voulez, c'est la force de la Géoula, de la libération, de la délivrance avec Dieu, mais à partir de l'universel. Et les frères, c'est toujours la même chose, la Géoula avec Dieu, mais à partir de la fidélité à la Torah des Pères, et à partir véritablement de la terre d'Israël. Ce sont les forces de Géoula, ce sont les forces de Yosef, et ce sont les forces de Yehuda. C'est pour ça que, à la fin des temps de l'histoire, les forces de Yosef et les forces de Yehuda vont se réunir, en fait, en Benyamin, c'est-à-dire le troisième temple. Benyamin étant la force d'union des frères. Merci beaucoup.